Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont présents sur la page Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine de Nicolas Sarkozy. Bon bah ça y est, il est en prison. Ses défenseurs continuent leur sketch un peu trop répétitif quand même, pour ceux qui aiment l'humour, l'humour de répétition. Un sketch répétitif où il est innocent. Et ce sont les juges qui s'acharnent contre lui. Les mêmes défenseurs affirment que la prison est un enfer. C'est bien de s'en apercevoir maintenant, mieux vaut tard que jamais. Alors que la droite, dont fait partie le plus petit de nos grands hommes, dénonce à longueur de discours le laxisme qui règne dans ces prisons, qui seraient des espèces de clubs méditerranéens. C'est du moins comme ça que ça a pu être présenté. Parfois. Eh bien là, ça va durer 5 ans quand même. Hein. Ah oui, c'est long. Mais heureusement, il a son portable avec lui, 24 heures sur 24. Il a des livres qu'il a pu emmener. Tiens, comme Le Comte de Monte Cristo, par exemple, d'Alexandre Dumas. Eh oui, c'est un mec qui s'évade. Bon, on compte pas sur Nicolas Sarkozy pour s'évader. Il va sûrement s'évader autrement. Il a notamment des gardes du corps, des gardiens, des parloirs. Espérons que ça lui permette de changer un peu son quotidien. Alors, je dis 5 ans, mais il y a des réductions de peine. Hein. Il y a même des possibilités de libération conditionnelle. Ah, mais pas trop tôt. Hein. Je voudrais vous lire un tweet qui date de 2012. « Je propose qu'un condamné ne puisse pas bénéficier d'une mise en liberté conditionnelle avant qu'il ait effectué au moins... les deux tiers de sa peine. Devinez qui est l'auteur ? Bien oui, c'est Nicolas Sarkozy. En mars 2012, ça c'est le problème de l'Internet. Hein. Tout ce que vous avez mis sur Internet reste sur Internet. Et ça fait de la mémoire pour ceux qui n'en ont pas. Donc rendez-vous en octobre 2028, voilà l'idée, hein, au bout de 3 ans, 3 sur 5, hein, les deux tiers de la peine. Ouais, on est pas mal là. Pour une éventuelle libération conditionnelle. Si le gars est un peu cohérent. Une autre occupation pour Nicolas Sarkozy durant ses 5 ans, durant son incarcération, ça devrait être l'extraction de tôle pour se rendre aux audiences des quelques affaires en cours dans lesquelles il est partie prenante. Parce que pour Nicolas Sarkozy, on a quand même l'affaire Kadhafi hein, qui a entraîné son incarcération et qui n'est pas terminée. L'affaire Karachi, l'affaire Wörth-Bettencourt, l'affaire des sondages de l'Elysée, l'affaire du Qatargate, l'affaire Bismuth, l'affaire Big Malion, l'affaire Réseau Garantia, l'affaire Lagardère Qatar. Oui, ça fait du monde. Donc du coup, il devrait aller se promener dans les tribunaux assez souvent. On aurait pu vous parler de budget. Toute la semaine passée, des députés en commission se sont penchés sur les presque 2000 amendements au projet de loi de finances 2026, ce qu'on appelle le budget, PLF. Idem pour le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Le rapporteur général de la Commission des finances, qui donc examine le projet de loi et ses amendements, avait été l'invité de la matinale de France Info vendredi 24 octobre. Nous sommes donc avec Philippe Juvin.
Premièrement, nous avons besoin d'un budget. Deuxièmement, nos marges de manœuvre, réellement, elles sont plutôt sur la dépense, qui sont très élevées, plutôt que sur les recettes, qui sont déjà très élevées. Avec, troisième point, cette difficulté technique, les gens doivent aussi le comprendre, vous l'avez dit, c'est que là, nous votons une première partie, ce sont seulement les recettes, c'est-à-dire les taxes et les impôts, et là où, en fait, nous n'avons pas de marge de manœuvre, à mon sens, et que la partie sur les dépenses qu'il faut baisser, il faut qu'on arrive à baisser la dépense publique, n'arrivera qu'après dans le débat.
Ah là là, oui, d'accord. Donc au-delà de la propagande libérale, hein, moins d'impôts, moins de dépenses de l'État et par conséquent, moins de partage de la richesse et plus de « t'as qu'à te démerder, t'avais qu'à naître chez les Rupins », nous apprenons dans cette petite intervention de Philippe Juvin, donc rapporteur de la Commission des finances, que c'est le volet recettes qui est examiné avant la partie dépenses. Et cette semaine, les libéraux du centre-droit à l'extrême droite, donc en clair, les macronistes, ça va des macronistes au RN, hein, en passant par l'UDI, Horizon, Les Républicains et l'UDR de Ciotti, votent contre les amendements qui prévoient de nouvelles recettes fiscales. Des amendements le plus souvent déposés par le nouveau Front Populaire. La taxe Zuckmann, c'est non. Un ISF climatique, c'est-à-dire un impôt pour orienter les investissements des plus riches, ça a été imaginé par la Convention citoyenne pour le climat. Vous vous souvenez de ça? Oui, un vrai travail collectif balayé par le mauvais acteur mais vrai banquier qui n'a pas de parole puisqu'il avait promis de mettre en œuvre toutes les mesures qui étaient proposées par la convention en question. Eh bien, pour l'ISF climatique, la commission a dit non. Etc, etc. À la fin de la semaine, le Parti Socialiste a tapoté de l'index sur la table. Si rien ne change lundi, censure. Bon, faudrait quand même se souvenir du nom porté par le parti, hein. C'est le Parti Socialiste. C'est pas le parti d'accompagnement d'une politique économique libérale petitement mitigée par des mesures aides sociales. Non, c'est pas du tout ce nom-là. L'agonie du réformisme de gauche pourrait nous être évitée si ce genre de formation rejoignait officiellement le centre-droit dont ils font de fait partie. Toutes ces organisations qui nous la jouent. Ouais, non, mais on est pour le social, hein, mais bon, l'économie libérale, tout va bien. Hein. La différence actuellement réside surtout dans la volonté de partager l'effort pour le PS. Alors que les partis de droite ne le disent clairement. Hein, on touche pas à la famille, on touche pas aux copains, on touche pas aux camarades de classe, parce qu'on est allé à l'école ensemble et qu'on fait partie de la même classe sociale, c'est-à-dire les détenteurs de patrimoine et de moyens de production de richesse. Non, l'effort pour la droite doit être assumé totalement par les populations. Eh, tant pis pour les pauvres. Et puis, voilà. Voilà. Il existe par contre une crainte à droite. On écoute de nouveau Philippe Juvin, membre important de la Commission des Finances.
Moi, ma crainte, c'est qu'on ait une augmentation à la fin de la pression fiscale et qu'il soit une augmentation qui pèse sur l'activité, en particulier sur l'activité économique. Pourquoi ? Parce qu'une des manières de nous en sortir, c'est qu'il y ait moins d'impôts, qu'il y ait moins de dépenses et qu'on ait une activité économique qui fonctionne. En fait, si vous avez de l'activité économique, vous créez de la richesse et mécaniquement des recettes en plus. Donc, voyez, le sujet, c'est attention à ne pas alourdir le fardeau qui pèse sur les entreprises parce qu'elles créent de la richesse.
Donc rien de nouveau sous le soleil, hein. L'idée bidon du ruissellement reste l'horizon promis par les libéraux en économie pour nous sortir de la mouise. Laissons les riches devenir de plus en plus riches pour que cette richesse serve les ressources humaines. Philippe Juvin n'évoque pas du tout l'accaparement des richesses créées, l'accaparement par les actionnaires et les cadres supérieurs des entreprises qui se votent des augmentations. Oui, tout va bien, hein. Les dirigeants d'entreprise, pour eux, ça va. Alors, les grosses entreprises, hein, bien sûr, hein, le Pékin moyen qui s'est dit « Tiens, si je montais ma boîte ?» Alors d'abord, l'auto-entrepreneur s'auto-exploite. Et là, en ce qui concerne les cadres supérieurs, il n'y en a pas. Et pour les petites entreprises, là non plus, des cadres supérieurs, il n'y en a pas. À partir du moment où, de toutes les manières, il y a de plus en plus de strates dans l'entreprise, c'est qu'il y a sûrement des gens qui ne sont là que pour organiser ce qui pourrait être organisé beaucoup plus simplement dans des structures beaucoup plus petites, mais qui rapporteraient beaucoup moins d'argent. Donc, à propos de cet accaparement par les actionnaires et les cadres supérieurs des entreprises, rien de la part de Philippe Juvin. Hein, non, il nous fait croire que c'est la production de richesses qui va aider les populations. Alors, soit il ne le sait pas qu'il y a accaparement par les actionnaires et les cadres supérieurs des entreprises, et c'est grave, soit il fait comme si ce n'était pas avéré. Pourtant, ça l'est, et c'est grave aussi. Alors, encore un exemple de la propagande libérale qui va bon train, hein, l'interview de Philippe Juvin. Elle continuera cette propagande, elle continuera en continu, jusqu'au vote du budget, pour qu'à la fin, nous acceptions encore une fois, encore pour une année, que le but de ce regroupement de population qu'on appelle l'État ou la société, simplement pour but la bonne santé de l'économie. Et surtout, des grosses boîtes dans l'économie. Donc c'est simplement ça, il va falloir que nous l'acceptions et c'est ce qui va justement prévaloir dans la propagande libérale que l'on va se retrouver, qui va nous être asséné toute la journée sur toutes les radios. Alors BFM Business, on s'y attend, mais France Info, on se dit que c'est l'État, c'est peut-être un petit peu plus neutre. Tais-toi, malheureux, tu me fais mal aux oreilles. Donc, de fait, ce regroupement de population qu'on appelle l'État ou la société n'a pas pour but la bonne santé des populations, non, mais plutôt la bonne santé de l'économie. À propos des populations et de sa bonne santé, le projet de loi de finances 2026 et son copain pour la Sécu contiennent des tombereaux de mesures contre la population. Par exemple, le doublement des restes à charge pour les médicaments, les examens, ainsi qu'aux dernières nouvelles, un tiers des habitants de ce pays a déjà renoncé à se soigner par manque de moyens financiers. Là, on va te laisser du reste à charge encore plus important. Donc, il y aura une proportion de plus en plus importante de la population qui va renoncer au moins une fois à des soins parce qu'il n'y a pas assez de pognon. Dans les textes présentés aux députés et sénateurs, on a aussi l'absence d'inflation pour 2026. C'est rassurant, hein. En tout cas, elle ne jouera pas sur les prestations sociales, les allocations familiales, le RSA, primes d'activité, les APL, etc. et les pensions de retraite. Ne seront pas soumis à l'inflation. Non, il n'y aura pas de revalorisation en gros. Ouais. Pour tous ces revenus complémentaires ou de substitution, hein, quand on a cotisé toute sa vie, c'est plus un revenu complémentaire mais de substitution qu'on appelle la retraite, eh bien, il y aura gel des montants, pas d'indexation sur le coût de la vie. On te le répétera jamais assez. T'avais qu'à naître dans une famille riche, c'est ton problème. Ah oui, pour le libéral, c'est ton problème. Ouais, l'égoïsme prévalent. La cupidité prévalant dans ce genre de philosophie, c'est pas l'entraide, hein. Non, non, pas du tout. Donc, t'es pas né dans une famille riche, bah, tu te soignes pas. T'es pas né dans une famille riche, bah, tu vas avoir des difficultés pour te loger. T'es pas né dans une famille riche, tu peux pas te permettre d'avoir un réseau qui peut t'aider. Eh ben, écoute, tu vas avoir une vie de merde. Et compliquée, hein. Sinon, bah, il faudrait peut-être, il y a peut-être une autre solution, devenir anticapitaliste et lutter pour une société régie par des idées socialistes. Ah non, non, j'ai pas du tout parlé du programme du PS ou de Place Publique. Hein. On aurait pu vous parler de la flotte au robinet. Samedi 18 octobre avait lieu une après-midi de débat-conférence sur le sujet de l'eau potable. Et on a pu y entendre Michael Dorangeon, un chercheur, enseignant et surtout président d'Atlantique Eau, un syndicat d'eau, donc un regroupement de communes syndiquées, regroupées, qui s'entraident pour la captation, le lavage et le transport de l'eau à destination des populations. Michael Dorangeon nous a entretenu des difficultés à trouver les molécules toxiques qui existent dans notre eau et surtout à s'en débarrasser totalement. Il préconise, lui, l'arrêt de l'utilisation des pesticides. Ah bah oui, en effet, c'est peut-être le truc qu'il faudrait faire. C'est la même conclusion qui a été portée par Christian Velot, qui est généticien moléculaire, qui nous fit un petit rappel de génétique pour expliquer sa réponse à la problématique de son intervention, à savoir cancer, prédisposition génétique ou cause environnementale. Bon, bah, les perturbateurs endocriniens très présents dans les pesticides et dans notre atmosphère, dans notre eau, dans la terre, un peu partout, eh bien, on en prit plein la tronche, les perturbateurs endocriniens. Et lors de cette journée organisée par le collectif Santé et Pesticides Sartois, on a également rencontré Hervé Conraud, membre du collectif citoyen, un collectif qui vise à améliorer la vie quotidienne des populations. L'association Comité Citoyen est basée à Pruyé-l'Aiguillé mais peut agir dans le monde entier au regard de ses statuts. Si vous voulez contacter le Comité Citoyen, bah, comité, bah, pas d'accent, hein, on est sur les internets. Donc comite.citoyen@orange.fr, comite.citoyen@orange.fr. Et Hervé Conraud nous a parlé de l'eau du robinet.
Elle est globalement très surveillée, mais ce qui n'empêche pas qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements de ces services publics locaux qui soit conduisent à disposer d'une eau qui n'est pas potable au sens réglementaire, et même pour un certain nombre de situations, à distribuer une eau qui présente des risques sanitaires pour les abonnés qui sont desservis.
Quand on est abonné régulièrement, on a une petite feuille qui nous indique, voilà, tels tests ont été faits et ça ne dépasse pas. Est-ce qu'il arrive que les tests en question soient dépassés dans un certain nombre de communes ?
Les données qu'on a sont soit trop fragmentaires parce qu'on affiche en mairie chaque bulletin d'analyse, mais dans une analyse, il n'y a seulement que quelques substances qui sont analysées. Donc la lecture des bulletins n'est pas suffisante pour avoir une vue globale. Et à l'opposé, les ARS publient des synthèses annuelles qui agrègent beaucoup trop les données pour mettre en relief les difficultés qui peuvent être apparues dans l'année écoulée.
Quand vous parlez d'ARS, ce sont les agences régionales de santé ?
Ce sont les agences régionales de santé, donc qui publient des synthèses soit à l'échelle régionale, à l'échelle départementale et à l'échelle de chaque réseau d'eau. Donc ces synthèses à l'échelle de chaque réseau d'eau sont le plus souvent jointes avec la facture annuelle, mais agrègent beaucoup trop les données. Quand on nous dit, par exemple, qu'il y a 98% de bons résultats, ben, on ne sait pas sur quoi portent les 2% de mauvais résultats et quelle est la conséquence de ces mauvais résultats.
Qui décide de ce qui va être testé ?
C'est chaque ARS qui décide des molécules qui sont analysées sur le territoire dont elle est responsable. On a un exemple sur une substance qui est dégradée et qui est particulièrement représentée à l'échelle nationale, qui est analysée dans le nord de la Sarthe sur un territoire qui est administrativement rattaché à l'Agence régionale de la santé de Normandie, et sur le reste du département qui n'est pas analysé sur le territoire qui relève de l'Agence régionale de la santé Pays de la Loire.
Est-ce qu'il arrive que certaines molécules que l'on trouve un petit peu trop dans l'eau et qui ne devraient pas y être, se retrouvent plus testées ?
Alors oui, ça se rencontre fréquemment pour un certain nombre de substances à problématiques et certaines ARS décident de ne plus analyser des substances pour de mauvaises raisons réglementaires. Mais c'est des décisions qui sont locales et variables d'un territoire à l'autre.
Alors, de mauvaises raisons réglementaires, puisque la liste des produits à tester est déterminée dans un texte juridique aussi, quand les produits ne font pas partie de la liste, il est possible de faire l'impasse. Par exemple, le bisphénol A, qui est un truc permettant d'amollir le plastique, de le rendre plus facile à travailler, mais aussi cancérigène avéré, eh bien, le bisphénol A fut testé en 2024 sur 3 réseaux d'eau. Dans la Haute-Marne seulement. Sur le reste du territoire, nada. 3 réseaux sur plus de 23 000 au niveau national. Oui, 23 000 réseaux d'eau. Par exemple, le Mans Métropole, bah, c'est un réseau d'eau. Mais ça n'assure pas la livraison, la captation, la livraison, le lavage de l'eau pour que ça devienne potable. Et le lavage, une fois qu'elle a été utilisée, cette eau, et qu'il faut remettre cette eau dans la nature, eh bien ça, c'est assuré par plein de réseaux d'eau un peu partout dans la Sarthe. Et donc, même si pour Le Mans Métropole, c'est environ c'est plus de 200 000 abonnés, plus de 200 000 foyers qui sont... habitants, hein, parce que si je dis foyer, ça ne marche pas, plus de 200 000 habitants de la Sarthe qui reçoivent l'eau de Le Mans Métropole, eh bien pour plein d'autres endroits, pour plein d'autres communes, ce sont des réseaux d'eau très très locaux. Et là, donc, sur les plus de 23 000, 3 ont testé dans la Haute-Marne s'il y avait du bisphénol A. Bah, si on ne veut pas le savoir, on ne le sait pas. Pour Le Mans Métropole, en 2024, dans la zone desservie par le réseau de Le Mans Métropole, 427 pesticides et métabolites de pesticides. Donc les métabolites, ce sont des mutations des molécules de pesticides, parce que ben, c'est de la chimie, hein. Le truc reste pas tel quel, la preuve, quand vous mettez de l'oxygène dans votre corps, ça ressort en CO2, magique, ouais, ben, c'est comme ça. Donc là du coup c'est pareil, les molécules de pesticides, elles se dégradent, elles changent, elles mutent, je ne vois pas d'autre mot. Et donc, ça donne ce qu'on appelle des métabolites. 427 pesticides et métabolites de pesticides ont été testés en 2024 dans la zone desservie par le réseau d'eau Le Mans Métropole et 421 en 2023. Pour qui, pourquoi ? Quels sont les 6 autres ? Qu'est-ce qui a prévalu au fait de les tester cette année en 2024 et pas en 2023 ? Eh bien, ça, c'est l'ARS qui dit, hein, les agences régionales de santé. Alors, nous n'avons pas trouvé la liste, mais peut-être qu'on avait un petit peu mal cherché. Alors, doit-on tout tester ? Bah, on écoute à nouveau Hervé Conraud du comité citoyen qui lutte pour essayer d'avoir une eau bien potable un petit peu partout dans le coin et notamment à Pruillé-l'Aiguillé.
Est-ce qu'il y a des obligations ? Des produits sur lesquels là, l'ARS ne peut pas faire l'impasse, en tout cas, il y a obligation à les tester.
Il y a des obligations qui relèvent du droit européen. Et en particulier, le droit européen interdit de distribuer, même à titre gratuit, une eau qui présente des risques sanitaires. Et également, elle interdit de distribuer une eau qui n'est pas potable, c'est-à-dire qui ne respecte pas les conditions minimales qui sont imposées au niveau européen. Et dans la pratique, on voit que ces critères ne sont pas toujours respectés.
Qui a la responsabilité de donner à la population de l'eau potable ?
Alors, il y a 4 niveaux de responsabilité. Il y a une première responsabilité au niveau européen, à travers les directives européennes. Un deuxième niveau de responsabilité qui est l'État. L'État, il est chargé de transcrire les directives européennes et il est surtout chargé de la gestion des risques sanitaires et de la gestion des dépassements de limites de qualité dont il doit rendre compte à l'échelle européenne. Ensuite, à l'échelle départementale, ce sont les préfets représentants de l'État qui incarnent les pouvoirs publics, qui s'appuient sur l'expertise sanitaire des agences régionales de la santé représentées à l'échelle départementale. Et en fait, il y a ensuite un autre niveau de responsabilité qui est celui de ce qu'on appelle dans le langage courant les services d'eau. Et puis enfin, Lorsqu'il y a des risques sanitaires, chacun des maires des 354 communes sartoises, qui sont responsables, d'après le Code général des collectivités territoriales, ils sont responsables de la salubrité sur le territoire de leur commune. Et c'est une des difficultés dans la gestion des risques sanitaires, c'est cette dilution des responsabilités sans qu'il y ait toujours un chef d'orchestre qui impose des règles qui permettent d'éliminer tout risque sanitaire.
Qu'est-ce qu'on peut appeler de l'eau potable ?
Il y a une définition générique qui émane de l'Organisation mondiale de la santé. Une eau est potable si elle ne présente pas de risque à court ou long terme pour la santé humaine.
Quand il y a un dépassement d'un certain nombre de molécules qui réglementairement doivent avoir une limite, est-ce qu'elle est toujours considérée comme potable ou pas ?
En Europe, une eau potable est définie comme respectant les critères minimaux définis au niveau européen. Donc dès qu'il y a un dépassement des paramètres définis européens, l'eau, par définition, n'est plus potable. Et se présentent alors deux situations différentes. Soit elle est non potable, mais ne présente pas de risque sanitaire, ce qui est une première configuration. Et deuxième configuration, beaucoup plus problématique, c'est que l'eau n'est pas potable et il y a des risques sanitaires qui sont avérés et reconnus.
Ah ben là, ça craint, hein ? Oui, c'est le drame, au sens strict. Imaginez-vous boire tous les jours une eau qui, à terme, risque de vous rendre malade. Vous le savez, là c'est peut-être encore pire, vous le savez pas. Ah ben ça tombe bien puisque tout le monde n'est pas au courant. Et alors du coup, on s'est interrogé, monsieur Conraud, dans la Sarthe alors ?
Est-ce qu'il existe dans la Sarthe des risques justement, c'est-à-dire une eau qui est distribuée mais qui comporte un risque pour la santé ?
Alors c'est quelque chose qui est connu de façon récurrente depuis 2012 autour de la pollution de l'eau du robinet par le chlorure de vinyl monomère. Et notre association connaît un certain nombre de situations locales dans lesquelles les abonnés reçoivent une eau qui présente des risques sanitaires depuis 2014. Et en 2025, cette situation n'est toujours pas réglée et circonstances qui est quelque part incompréhensible, c'est que tous les abonnés ne soient pas informés de cette situation.
C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de boire une eau qui potentiellement peut atteindre leur santé.
Il faut enlever de votre question l'adverbe « potentiellement », parce qu'en ce qui concerne le chlorure de vinyle monomère, le risque, il est reconnu par toutes les agences de santé à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Il ne s'agit pas du tout d'un risque potentiel. C'est un risque qui est connu statistiquement, ce qui n'est pas la même chose.
Comment se fait-il que les différents responsables ne se soient pas dit bah, on arrête tout et on modifie le réseau pour que ça redevienne de l'eau potable ?
Les choses sont plus compliquées que ça parce qu'il faut d'abord se donner la peine d'identifier tous les secteurs concernés. Et une fois qu'on connaît les secteurs concernés, il y a une solution simple et pas cher pour éliminer de manière immédiate tout risque sanitaire, c'est de placer des purges. Et je suis incapable de dire pourquoi les responsables de la qualité de l'eau à l'échelle départementale, le préfet et les services d'eau, n'arrivent pas à mettre en œuvre de manière efficace et rapide ces dispositions. Les purges sont un moyen simple et peu coûteux de résoudre immédiatement ce sujet. La question du changement de canalisation, qui là peut mobiliser beaucoup d'argent, ce n'est pas le sujet qui est soulevé par notre association. Nous, ce que nous demandons, c'est deux choses, que la population soit informée et qu'il soit mis en place le plus rapidement possible, des purges afin d'éliminer tout risque sanitaire. Et s'il faut 10 ans, 15 ans ou 20 ans pour changer les canalisations, ça ne nous pose aucun problème si les risques sanitaires sont éliminés en attendant de réunir les financements nécessaires au changement de canalisation.
Eh bien, pas très rassurant tout ça, et surtout pas très efficace hein, quand on voit l'empilement des responsables et que finalement, eh bien, il y a très très peu d'actions entreprises. Bah, par exemple, à Conéré, pour la partie de la commune qui dépend du réseau Montfort-le-Génois-les-Sablons, parce qu'il y a une autre partie qui dépend d'un autre réseau, une analyse de la fin août 2025 donne 10 microgrammes de chlorure de vinyle monomère dans l'eau quand la limite réglementaire est de 0,5 microgrammes, soit 20 fois plus que la limite. Et ça, ça se passe fin août 2025, ça n'a pas beaucoup changé depuis. À Conly, la dernière analyse qui date de juin 2025 donne 0,52 pour une limite de 0,50 microgrammes. Ben là, ça dépasse. Mais ça dépasse beaucoup, non, pas beaucoup, beaucoup moins, mais l'eau n'est pas sans danger. De même, à 0,49, ce n'est pas non plus sans danger. Le dépassement de la limite réglementaire indique juste qu'il faut prévenir les populations, mais le danger, il peut se retrouver avéré, même à une très très basse concentration. À ce propos, les cartes et documents trouvés sur santé.gouv.fr ne sont pas très éclairantes et disent « ouais, non mais tout va bien ». Tout va bien, tout va bien. Par exemple, sur Conéré, conformité 100%. Par contre, on a trouvé un site d'une entreprise qui vous accompagne dans vos déménagements et qui s'appelle o.selectra.info. Vous ajoutez /indicateur et là, tout en bas de la page, vous avez la liste des produits qui sont testés. Cherchez chlorure de vinyle monomère et là, bah, c'est pas très rassurant. On reparlera de l'eau potable quand on aura l'occasion. Et bien, sans transition, on aurait pu vous parler des PFAS. L'ANSES recommande une surveillance optimisée face à la contamination aux composés des perfos et polyfluoroalkylés, les PFAS en fait. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail cherche à savoir si on ne pourrait pas les surveiller encore mieux et puis pourquoi pas arrêter de les produire. Ah ça, ce serait carrément bien. Tiens, on s'aperçoit que ce genre de saloperies là, poly, per, machin, fluoro, machin, oh, on les trouve dans les pesticides pour beaucoup. Ouais, il va vraiment falloir y faire quelque chose à ces pesticides. On aurait pu vous parler sans aucune transition non plus de TikTok. Dans un rapport publié mardi 21 octobre, l'antenne française d'Amnesty International montre de nouveau les risques pour les enfants associés au fait de doom-scroller des vidéos sur le réseau social TikTok. Et ouais, ça les rend de plus en plus cons. Et en plus, c'est assez dangereux puisque très rapidement, l'algorithme vous dit « Oh là là, vous êtes intéressé par tel truc ?» Eh bien tiens, je vais vous enfermer dans le tel truc en question. Et notamment, des adolescents qui se posent des questions, rapidement, des tests ont été faits donc, par l'antenne française d'Amnesty International. Rapidement, les jeunes se retrouvent au bout de 1 quart d'heure, 20 minutes avec l'ensemble de leur fil de communication, avec presque exclusivement des vidéos sur la santé mentale. Parce que, une question avait été posée. Ouais, est-ce que ça va? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que, voilà. Et il arrive que quand même sur l'ensemble des fils de communication, là, Amnesty International dit jusqu'à la moitié des contenus étaient des contenus tristes et dépressifs. Et voilà comment on t'enferme dans un truc où ça va pas. Non, ça va pas. Mais alors ça va vraiment pas. Et il y aura rien pour que tu ailles mieux. Pourquoi? Parce que nous, on va te mettre de l'information où ça va pas. Et ça continuera à ne pas aller. Ouais, c'est très triste tout ça. Donc TikTok, les réseaux sociaux, les algorithmes, tout ça c'est pour gagner du pognon pour une partie de la population. Mais à quel prix? Au prix de la santé mentale d'une partie de la population et notamment de la jeunesse. Ce serait peut-être bien d'interdire ça. Alors comment? En faisant passer des lois qui interdisent ce genre d'activité. Il y a des activités qui sont illégales. Pas pour ça qu'elles n'existent pas, mais en tout cas elles sont déclarées illégales. Peut-être que... un réseau social, ça devrait être illégal à partir du moment où les algorithmes rendent les gens encore plus dépressifs. On aurait pu vous parler de tout ça, on aurait pu vous parler des municipales. On avait préparé tout un truc sur... vous saviez qu'en 1799, Napoléon Bonaparte commence à tisser sa toile et sa clientèle. Et puis que du coup, pour les communes de plus de 5000 habitants, c'est lui qui les nomme. Quelle prétentieuse Napoléon Bonaparte. On vous dira tout ça la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire que si vous cherchez des informations diverses et variées sur ce qui se passe, comme par exemple le samedi 25 octobre à 14h, manifestation de solidarité avec les Palestiniens, Palestiniennes, c'est Place de la République à 14h, samedi 25 octobre 2025. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe, n'hésitez pas à aller voir sarthe.demosphère.net. Et puis nous, on va vous quitter. Je vous dis tout simplement, allez, Au revoir.